Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour.
Vous avez clôturé le premier cycle électoral. À quand le second cycle et quels sont les défis qui vous attendent pour affronter ce second cycle?
Non, le premier cycle n'est pas totalement clôturé parce qu'il y a encore les contentieux électoraux et c'est la Cour suprême qui va proclamer le résultat définitif des élections législatives. Et à partir de ce moment-là, il y a des circonscriptions, par exemple, où nous n'avons pas organisé des élections. Il y en a 7. Et d'autres, peut-être, où la Cour pourra nous demander de réorganiser. Et il y a des élections provinciales du gouverneur de la province, je voudrais dire, qui nous sommes en train d'organiser. Donc nous sommes en plein travail. Mais en ce qui concerne la suite, c'est toujours comme je vous ai dit, nous avons entamé une profonde réflexion d'évaluation de ce qui a été fait après une année de travail. Les questions essentiellement de faire des synthèses, comme je vous ai dit, au niveau des antennes, au niveau des provinces, au niveau national, donc des synthèses thématiques. Et aujourd'hui, nous avons terminé l'adoption des termes de référence qui ont été partagés avec nos partenaires privilégiés de la division électorale et de la MONUSCO, ainsi que le projet PNUPAS. La semaine prochaine, nous allons soumettre ces termes de référence avec l'objectif global qui est l'amélioration de la gouvernance électorale de notre pays au regard, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé en 2011 et ce que nous pouvons faire en 2012 et en 2013 pour, n'est-ce pas, boucler toute l'architecture de ce cycle électoral.
Donc, nous sommes toujours dans le premier cycle, qui n'est pas complètement...
Non. C'est justement le premier cycle, c'est le cycle 2011-2013. Et le cycle 2011-2013 comprenait des élections présidentielles et législatives. Il reste maintenant des élections provinciales qui vont nous permettre d'arriver au sénatorial et à l'élection du nouveau gouverneur et vice-gouverneur. Lorsque nous aurons terminé cette étape, en 2013, il était prévu que nous puissions, n'est-ce pas, faire maintenant des élections municipales, ce qui est local et qui constitue pour nous les clous de notre schéma d'implantation d'un état de droit démocratique dans notre pays.
Et c'est ça le second cycle, l'élection municipale. Ça constitue le second cycle électoral.
Non. Il y a le deuxième cycle comprend trois stades. Élection combinée présidentielle législative, première phase. Deuxième phase, les élections provinciales, sénatoriales et des gouverneurs. Et troisième phase, n'est-ce pas, de ce second cycle, les élections municipales et locales.
Qui risquent de ne pas avoir lieu, c'est-à-dire...
Non, il ne faut pas dire cela. Nous devons tous avoir la volonté de consolider notre système démocratique. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une élection. C'est un processus, c'est une expérience. Et lorsque on croit pouvoir construire les élections par la démocratie en organisant seulement des élections présidentielles ou d'une seule chambre, et bien là, nous avons des élections asymétriques qui finalement n'auront pas la capacité d'irradier la gouvernance démocratique sur l'ensemble du territoire et de l'espace national. Il faut que nous puissions faire les élections à tous les niveaux. Si nous voulons avoir un état de droit.
C'est un arriéré de la CI.
C'est encore...
Qui risque encore d'être un arriéré de la CENI.
C'est encore une raison de plus pour ne pas accepter cet arriéré. Il faut absolument. D'ailleurs, on aurait pu, dans un schéma normal, commencer par la base. Donc, socler la démocratie à la base avec les élections municipales et locales et construire par étapes, enfin, pour arriver au sommet. Mais nous avons renversé notre pyramide, mais nous devons avoir la volonté, je dis bien la volonté politique, d'aller jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement, comme je l'ai dit, se contenter d'une élection, je dirais, sur une partie que nous pouvons avoir, ce qu'on appelle l'hyperbolisation de l'élection présidentielle, et s'arrêter là-bas, et puis on a une majorité à la Chambre, et puis on dit qu'on a un état des droits démocratiques. Non, il faut aller jusqu'au bout.
Et avec quel budget comptez-vous organiser les élections qui restent, donc affronter les étapes qui restent?
Le budget de notre cycle électoral a été validé par les partenaires internes et internationaux. Ce budget a été discuté à plusieurs niveaux. C'est dommage que chez nous, nous n'avons pas un système de budget pluriannuel. Mais dans le cycle électoral, le schéma est pluriannuel. Donc, ces budgets, la partie relative à la révision du fichier électoral et à l'organisation des élections présidentielles et législatives est consommée. Il faut maintenant que nous puissions planifier, n'est-ce pas, la mise en œuvre du budget pour les élections provinciales et ensuite pour les élections local et municipal. Tout ça, ça a été discuté avec les partenaires et je crois qu'il faut avancer. S'il faut aller tout le temps de remise en cause en remise en cause, ben c'est la construction même de l'état des droits démocratiques qui est remise en cause.
Et vous estimez ça à combien, ce budget?
Le budget est estimé déjà à plus ou moins 200 millions, c'est-à-dire que nous avons 160 millions, 169 millions. À 69 millions pour les élections pour la partie congolaise et plus ou moins 35 millions pour les partenaires internationaux.
35 millions de dollars.
35 millions de dollars. Donc, si on voit ce qui a été fait pour les élections présidentielles et législatives, nous pouvons encore arriver à recadrer. Parce que l'ensemble de matériel structurant, tel que le véhicule, le matériel de télécommunication, les urnes à usage multiple, même les isoloirs, tous ces matériels existent déjà. Donc maintenant, c'est tout simplement voir comment les frais opérationnels ponctuels et des remises à l'État, n'est-ce pas, peuvent être planifiées. Donc, nous croyons que pour autant que nous avons la volonté politique des uns et des autres, nous pouvons avoir des bonnes élections, en tenant compte, bien sûr, des faiblesses qui ont été observées lors de le premier stade, c'est-à-dire des élections présidentielles et législatives.
Et comparativement aux élections présidentielles et législatives, le budget sera moins coûteux?
Absolument, absolument.
Est-ce que le gouvernement a déjà fait part quand même de ce qu'il a dans sa caisse pour...
Non, je crois que vous avez suivi comme moi le ministre des Finances qui a dit que, en principe, le gouvernement est à même de financer sa partie, d'autant plus que le gouvernement a fait le plus dur lors des élections présidentielles et législatives.
Mais sa participation sera insignifiante par rapport aux partenaires extérieurs.
Mais pourquoi ça ne peut pas être insignifiante? Au départ, l'objectif, c'était 60-40%. Et il y a eu, bien sûr, des dépenses nouvelles qui ont été imposées par l'objectif politique que nous nous sommes fixés, à savoir organiser les élections dans le délai constitutionnel et organiser des élections combinées. Ce qui changeait plusieurs paramètres, notamment il fallait un ajout des ajouts en matière logistique pour réduire, n'est-ce pas, le temps de transmission des résultats. Il fallait acquérir des matériels de transmission qui n'étaient pas prévus dans le schéma originaire. Et pour cela, les partenaires internationaux ne voulaient pas, n'est-ce pas, ou ne pouvaient pas être, n'est-ce pas, surpris. Mais je crois que les choses ont marché plus ou moins de manière équitable. C'est vrai que nous sommes allés au-delà de 75-80%, mais la communauté internationale a contribué aussi à la bonne tenue de ces élections, notamment avec l'appui de la MONUSCO, mais aussi l'apport de plusieurs partenaires extérieurs, tels que la République sud-africaine, qui a transporté le bulletin de vote, ou d'autres pays comme l'Angola et d'autres. Mais l'apport de la communauté internationale était là, notamment avec l'Union européenne, qui a été un des grands contributeurs, qui continue à l'être, avec plus ou moins 60 millions de dollars, et avec la Grande-Bretagne qui a été contribuée au plan bilatéral à plus ou moins 47 millions, et la Belgique venue avec plus ou moins 22 millions. Donc nous pouvons estimer que chacun a pu mettre le sien sans pour autant brader la souveraineté budgétaire.